Depuis 2001, L'Envolée, c'est une émission et un journal pour en finir avec toutes les prisons, faites par d'anciens prisonniers et prisonnières, et des proches pour relayer la parole des enfermés. L'abonnement au journal est gratuit pour les prisonniers et les prisonnières qui en font la demande. L'émission de radio est diffusée le vendredi soir de 19h à 20h30 sur FPP 106.3 en région parisienne ou sur rfpp.net et disponible ensuite sur toutes les plateformes de podcast. L'épidémie de coronavirus a de lourdes conséquences en prison. C'est pourquoi, face à la gravité de la situation, nous avons décidé de produire un bulletin d'information quotidien de 15 minutes que vous pouvez écouter chaque soir de la semaine à 19h sur les ondes de FPP et sur l'envolée.net, en plus de l'émission du vendredi qui est maintenue. Nous demandons à toutes les radios locales de diffuser largement ce bulletin. Il est plus que jamais nécessaire de ne pas laisser les prisonniers et les prisonnières seuls face à l'arbitraire de l'administration et de faire entendre leur voix. Nous relayerons les actions collectives et individuelles dont vous nous informerez, ainsi que des témoignages directs sur la situation à l'intérieur. Tenez-nous au courant par tous les moyens à votre disposition. Nous diffuserons les messages vocaux et les textos de prisonniers et de prisonnières que vous nous enverrez. Nous lirons également les messages que les proches privés de parloir nous demanderont de passer. Notre numéro de téléphone, 07 52 40 22 48. Pour écrire, Radio FPP, L'Envolée, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Ou encore à l'envolée.net et sur Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat.
Dans une putain de cellule au premier étage! Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelques poussins crient. Y'a du partout dans la tour! Y'a du partout dans la tour! Y'a du partout dans la tour! Café, les mecs, ça va saigner! Pops ont commencé à l'aile gauche de la tour! Se mettent à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner.
Et après, donc, c'est Bernard Rupert qui a plaidé à un bon moment. Je sais pas, ça a dû durer une bonne heure. Et dans sa plaidoirie, il a commencé par défoncer, comme d'habitude, la justice. La justice, dans ce à quoi elle sert, pour de bon, c'est-à-dire absolument pas pour être juste ou quoi au caisse, mais bien pour maintenir l'ordre à n'importe quel prix. Et puis ensuite, il s'est, pendant un grand moment, comme il fait toujours, il dit, mais bon, il n'y a pas que les déclarations de principe, vous les connaissez, j'y tiens, mais maintenant, je vais démonter votre dossier qui ne tient pas la route. Mmh. Il a pris les éléments un par un de l'acte d'accusation, et à chaque élément, il a dit, l'accusation est fausse, elle ne tient pas debout, pour différentes raisons, et c'est obligatoirement une relaxe. Par exemple, je donne un exemple, ça a l'air tout con, hein, mais c'est juste. Il y avait marqué « vol des clés de monsieur du surveillant ». Et lui, il dit « non, il n'y a jamais eu le vol des clés du surveillant. Les clés n'appartiennent pas au surveillant. Ce ne sont pas les clés de chez lui. Ce sont les clés de l'administration pénitentiaire. Donc, pour que l'accusation soit juste, il faut formuler les choses différemment. C'est trop tard pour les reformuler maintenant. Donc, cette accusation ne tient pas. Il n'y a absolument pas les vols des clés de monsieur machin. Il y a les vols des clés de l'administration pénitentiaire portés par monsieur machin. » Ce qui n'est pas pareil. Bon, les autres, ils ont une gueule. Et après, donc, un autre élément d'accusation était l'incendie.
L'incendie des cellules, ouais, c'est
ça. L'incendie des cellules. Et là, il y a la preuve, il a tout repris, il y a la preuve par plein de témoignages qui n'ont pas eux-mêmes mis le feu aux cellules. Donc, il a dit, donc là, vous êtes en train, parce que c'est eux qui ont pris les clés, qui ont ouvert les cellules, et après, des gens ont mis le feu à 4 cellules. Et vous êtes en train donc de leur faire porter la responsabilité de ce geste incendiaire. Mais il dit, mais ça en France, ça, cette accusation ne tient pas la route. Elle a tenu la route pendant quelques années du temps de la loi anti-casseurs. C'est vrai que quand la législation permettait que tout le monde était responsable collectivement pour l'action de, d'une personne, c'est-à-dire qu'on n'était pas
obligatoirement sur le lieu, ouais.
qui avait fait le truc, le délit, mais qu'on pouvait en être responsable, parce qu'on est juste par le simple fait qu'on était là, ça, ça existait. Mais cette loi-là a été abrogée. Heureusement, il y a un jour, ils la remettront. Mais là, pour le moment, elle n'existe pas. Donc, tant qu'il n'y a pas la preuve formelle d'un témoignage, d'un film, de quelque chose, puisque tout a été filmé, qui montre l'un ou l'autre des deux en train de mettre le feu, eh ben, l'accusation ne tient pas la route. Ils n'ont pas mis le feu. C'est relax, obligatoirement. Voilà, il les a démontés tous comme ça, un par un. À la fin, il ne restait plus rien.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes dans la quotidienne de l'Envolée. Nous sommes le mercredi 6 mai, il est 13h52. Vous êtes en présence de Floréal, Nol, Gaël, K, Alex, Pierrot, Serge, Manu au bocal et Sylvia qui vous salue. Maintenant, on va vous parler de D-Bag, de son surnom, incarcéré en Martinique en 2010. Dans des conditions carcérales déplorables et intolérables, il décide de ne pas se laisser mourir et demande son transfert en métropole en 2013, où il pense vivre un emprisonnement décent avec des droits qui ne seront pas bafoués. Malheureusement, c'est le début de son calvaire puisqu'il tombe dans une tôle où les surveillants règnent en maître et des propos raciaux sont faits à son encontre, des paroles très graves et douloureuses sur lesquelles il décide de ne pas rester muet et de ne pas se laisser faire. Ce qui lui vaut plusieurs transferts disciplinaires dans plusieurs tôles, jusqu'au jour où il atterrit dans la prison la plus sécuritaire de France, une des prisons les plus sécuritaires de France, Condé-sur-Sarthe, un QHS géant. Les semaines passent, les mois passent, et D-Bag a écrit à plusieurs reprises au directeur pour pouvoir le rencontrer, mais malheureusement, silence complet. Personne ne vient le voir, personne ne le reçoit dans son bureau, alors que ce directeur est responsable de tous les prisonniers incarcérés dans son établissement. Voilà, mais comme D-Bag est un homme qui ne se laisse pas faire et qui décide de dire les choses quand il faut les dire, parfois la vérité n'est pas bonne à entendre, donc ce directeur l'esquive. C'est là qu'arrive une surveillante stagiaire qui décide de faire des propositions indécentes à D-Bag, allant même jusqu'à proposer des coucheries. Quelle blague ! D-Bag refuse très vite ses propositions et en parle à sa femme avec qui il est très fusionnel. Donc Nathalie décide de ne pas laisser faire et écrit au directeur de détention pour lui expliquer ce qui s'y passe. Entre-temps, des comptes rendus d'incidents sont faits par cette surveillante stagiaire qui sont infondés, qui n'ont ni queue ni tête malheureusement pour elle et qui lui vaut d'être placée dans son dossier carcéral et pénal. Arrivée la lettre sur le bureau du directeur, très vite, ce directeur accourt à la cellule de D-Bag, alors que ça faisait quand même 8 mois qu'ils attendaient des nouvelles de ce monsieur, en demandant « mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette histoire ? Faut pas faire de bruit, on va régler ça ?» Donc ça s'est réglé en interne, mais sans cette lettre, D-Bag aurait eu des comptes rendus d'incidents perpétuels, et ce serait été... encore un peu plus dramatique dans son incarcération. Voilà. Pour vous dire à quel point ces surveillants sont machiavéliques, à des moments donnés, faut arrêter. Le 5 mars arrive. On entend au JT qu'un homme et sa femme dans les unités de vie familiale auraient menacé les surveillants avec un couteau céramique. Que la femme aurait fait rentrer, que le GIGN est intervenu, qu'il a tué cette femme qui était enceinte mais qui après ne l'était plus. Donc on entendait les syndicats parler au JT constamment, sans entendre la voix des prisonniers qui avaient beaucoup à dire à ce sujet, puisque des vidéos sont sorties des semaines plus tard sur les réseaux sociaux, à visage découvert, où les mecs dénonçaient des choses qui méritaient d'être entendues et expliquées au JT. Suite à ça, les surveillants ont décidé de faire des revendications et de bloquer les prisons comme à leur habitude. Donc, en gros, ils se mettent devant les tôles, empêchent les familles de rentrer en brûlant des pneus et des palettes. ce qui fait que plus personne ne peut faire fonctionner la prison à l'intérieur et les IRIS, donc le GIGN de la tôle, prennent la situation entre guillemets en main et donnent à manger aux prisonniers, gèrent ce que les surveillants devraient faire. Mais une ambiance terrible y règne, puisque ça va au-delà des conventions des droits de l'homme. Les prisonniers ne mangent pas à leur faim. Un exemple, on leur donne deux baguettes et deux boîtes de thon pour trois jours consécutifs. On ne leur vide pas les poubelles dans les cellules, donc ça s'entasse. Il faut savoir que ça a duré quand même trois semaines, hein, la grève. Hein. Ça s'entasse dans les 9 mètres carrés, ça sent mauvais, ça peut ramener des bêtes comme des rats, par exemple. Mais on leur empêche aussi l'accès aux cabines. D'où arrive le 20 mars, 15 jours après le blocage des surveillants qui continue en masse, avec le renfort de plusieurs surveillants qui arrivent de d'autres tôles devant Condé. Dibag demande l'accès à la cabine puisque c'est l'anniversaire de sa fille et qu'il ne peut pas la voir puisque les surveillants sont dehors en train de le prendre en otage à l'intérieur. Et comme tous les prisonniers qui sont enfermés d'ailleurs et leurs proches qui attendaient impatiemment de pouvoir avoir accès au parloir, eh ben, il est complètement pris pour un con puisqu'on lui ferme la porte au nez. Il décide de demander une deuxième fois l'accès à la cabine puisque la douleur est tellement forte. Il a envie de parler à sa fille pour lui souhaiter son anniversaire. Et en guise de compréhension, il se fait tabasser, lyncher en toute impunité par ses cinq surveillants, Iris, cagoulé. Et ça lui vaut une arcade sourcilière ouverte. Il est replacé en cellule sans avoir vu un docteur. Il le verra qu'une semaine après. Des points de souture étaient nécessaires, mais il ne pouvait plus le faire puisque c'était trop long. Et s'il y avait des ITT à signaler, il était trop tard aussi. Suite à ça, il se réunit avec plusieurs prisonniers et décide de faire une plainte collective auprès de la DI qui, complice de l'administration pénitentiaire, rejette cette plainte. Un avocat, maître Sylvain Gaucher, décide de faire monter la plainte en cour européenne et dépose deux plaintes. Manque de dignité pour poubelle pavidée, non accès aux activités, aux parloirs, aux cabines, voilà tout ce que je vous ai signalé tout à l'heure. Aussi la distribution des repas qui sont pas donnés en guise d'habitude le matin, le midi et le soir, on leur donne deux boîtes de thon et ces deux baguettes, ce qui est totalement très grave et inhumain, de laisser crever de faim des gens qui peuvent être indigents des fois. Et la deuxième, pour coups et blessures. Un an plus tard, les familles sont toujours en attente du résultat de cette plainte, en espérant qu'ils aient gain de cause, sinon l'État serait complice de cet inhumanisme qui règne dans cette tôle au moment des faits. Dibag se fait transférer à Val-de-Reuil. Il arrive au quartier des arrivants, où il rencontre via une autre fenêtre, placée dans une cellule à côté, un gars qui parle la même langue que lui, ce qui lui donne une bouffée d'oxygène. Il parle avec lui, il communique de tout et de rien, il dit qu'il arrive de Condé-sur-Sarthe. Et là, une surveillante entend à travers les portes et se met à écouter, enfin en comprenant rien du tout, mais elle aspire les mots qu'elle comprend, donc Condé-sur-Sarthe, et elle se fait son film imaginaire, et elle fait un compte-rendu d'incident en disant que Dibag va reproduire les mêmes choses qui se sont passées à Condé-sur-Sarthe. Ce qui lui vaut d'être placé à l'isolement immédiatement. Il a des comptes rendus d'incidents en plus dans son dossier pénal et que c'est le premier faux d'une longue série qui arrive puisque cette surveillante se rétracte en disant que en fin de compte elle n'est plus très sûr d'avoir entendu tout ça et que c'est pas vrai, voilà. Et d'où le premier d'une longue série, vous allez comprendre, on vous en a parlé la semaine dernière dans une quotidienne, où cinq surveillants ont été condamnés pour avoir fait des faux CRI et pour coups et blessures. Alors, c'est dit bag. L'histoire commence comme ça. Il remonte de promenade, il refuse une fouille systématique à son encontre. Le surveillant le colle contre le mur. Dibag le repousse. Le surveillant tourne la tête, s'aperçoit qu'il y a quatre surveillants qui arrivent, donc repousse le prisonnier contre le mur, lui met un coup de poing dans la figure et Dibag instinctivement prend un stylo et plante le stylo dans le corps de ce surveillant. Il est maîtrisé très vite puisqu'ils sont cinq sur lui, ils le tabassent, ils le traînent au mitard, donc au quartier disciplinaire. Ils lui mettent des coups de Rangers dans la tête, dans le cou. Dibag s'évanouit. Dans son évanouissement, le prisonnier se défèque dessus, et non pas de peur, comme l'a pu dire la presse. C'est vraiment parce qu'il est tombé dans les pommes qu'il s'est déféqué dessus, et c'est déjà pas facile de l'expliquer et de le dire. Si en plus ça transforme les choses, c'est encore plus dur. Suite à ça, il se réveille, il est amené en garde à vue, où heureusement le surveillant n'a rien de grave, donc il est transféré immédiatement au mitard de la prison de Rouen, où les CRI, donc les seconds faux compte-rendus d'incidents placés dans son dossier, en expliquant les faits qui se sont passés à Val-de-Reuil, ils sont faits par des surveillants de Rouen, alors qu'ils n'ont rien vu, qu'ils ne savent strictement rien, sauf ce que leurs collègues complices leur ont expliqué. Et donc, c'est complètement basé sur du faux. Et c'est là que Maître Étienne Noël dépose plainte et que le prisonnier a gain de cause et qu'il réussit à gagner ce procès. Les surveillants ont fait appel, on ne sait pas ce qui va se passer en deuxième instance, mais comme tout à l'heure pour la Cour européenne, on espère vraiment qu'en deuxième instance, ils concluront comme la première, donc coupable, messieurs les surveillants. Aujourd'hui, il est placé à Rennes, directement au quartier des Isolés. Faut savoir que Dibag a une maladie pas très grave en soi, mais qui peut le devenir puisque ça peut lui provoquer une hémorragie. Qu'il est incarcéré là-bas depuis le 19 mars 2020, qu'il a eu que 6 jours de traitement et qu'aujourd'hui, le mercredi 6 mai, il n'a plus du tout de médicaments qui lui sont donnés. Donc, il est en risque perpétuel de faire une hémorragie. Rappelons qu'il n'est pas suicidaire. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il a un traitement comme les suicidaires, très très dur. En gros, on lui fait des contrôles œilleton toutes les 45 minutes à 2 heures. Enfin, ça dépend des jours. En allumant la lumière de l'extérieur et en l'insultant toute la nuit pour le pousser à bout. Faut savoir qu'il y a des prisonniers à l'époque qui ont porté plainte pour ça parce que ça leur provoquait des crises d'épilepsie et que aujourd'hui il en est pas là, mais on n'est pas à l'abri que ça lui arrive. Donc ce serait sympa que le directeur dise à ses ouvriers de ne plus l'embêter la nuit, de le laisser dormir et d'arrêter d'harceler les gens et de lui faire des pressions morales et psychologiques, qu'il n'est pas suicidaire et que s'il lui arrive quoi que ce soit, il en sera l'entier responsable. Toutes ses affaires ne lui sont pas restituées. Ce serait sympa de lui redonner toutes ses affaires qu'il a achetées. Donc ses affaires fringues, il les a, mais ses affaires matérielles, matériaux, il lui donne au compte-gouttes en simulant que, par exemple, le fouet pour faire les gâteaux, ils ne lui le donneront pas parce qu'il peut fabriquer un pic alors qu'il l'a acheté à l'administration pénitentiaire et que si c'est réellement dangereux et que les prisonniers peuvent fabriquer des pics avec, évitez de les vendre dans les cantines. Vous êtes bon pour prendre l'argent, vous êtes aussi bon pour leur donner ce qu'ils ont acheté. C'est leur dû, ça s'appelle du vol, ça. Voilà. Faut savoir qu'il subit aussi des fouilles perpétuelles et bizarrement, vous savez, il y a une espèce de poil, un peu comme dans les tribunaux ou les aéroports, qu'on vous passe pour voir si vous n'avez pas du métal illicite sur vous. Et c'est tout le temps une surveillante qui lui frôle, excusez-moi l'expression, le sexe, perpétuellement, surtout la même surveillante. Est-ce que c'est par rapport au rapport ou à la lettre que sa femme a faite à l'époque à Condé-sur-Sarthe pour les faire passer pour des fous ou des relous ou qui fabulent des choses qui n'existent pas. Voilà, cela étant dit, on espère que cette femme arrête d'agir de la sorte, car nous croyons, nous, cette famille, et le prisonnier n'a aucune raison de mentir, surtout qu'il n'est pas attiré par cette femme et que voilà, il est très amoureux de la sienne. Merci d'arrêter. On vous tiendra de la suite des événements et bien évidemment, il n'y a pas d'arrangement. Salut !